Jean-Yves Boud, bonjour.
Bonjour.
C'est avec plaisir qu'on vous retrouve à Châtillon-Saint-Jean, non loin de Pont-en-Royan. Vous avez eu l'occasion aussi de porter certains aspects du village en littérature. Alors là, vous venez présenter aussi d'autres ouvrages diversifiés, on pourrait dire.
Qui représentent ma vie, puisque j'ai toujours été un écrivain voyageur et toute mon inspiration vient des expériences que j'ai sur le terrain, soit les livres adultes, les enquêtes sur les mémoires assassinées de l'Afrique, qui est la série des livres chez Actes Sud, pour montrer combien de mensonges ont été dits sur l'Afrique et ce qui a été dissimulé sur la grandeur de l'Afrique, pour ne pas oser dire que l'Afrique a apporté énormément à la construction de notre monde. Ça, c'est la base de mon travail. Et quand j'ai le sentiment d'avoir approché suffisamment un pays comme le Cap-Vert, comme Saint-Thomé, comme le Brésil, je me permets d'écrire des romans jeunesse. Alors j'utilise l'aspect romanesque pour la littérature enfance plutôt ado. Moi, je suis plutôt un écrivain pour ado. Voilà. Pareil, il y a souvent un livre adulte et un livre jeunesse qui correspond.
Ouais. D'accord. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder la littérature. Soit on peut vous passer des fois des commandes, vous inviter dans un contexte pour réaliser un livre, ou vous pouvez de vous-même aussi.
Non, c'est notre démarche, c'est ma démarche personnelle qui fait que je choisis. Ma vie a été faite de 15 ans au Pakistan, à la frontière avec l'Afghanistan. Il y a eu un gros travail sur le peuple Kalash du Pakistan, des livres adultes et deux romans jeunesse, Le Tournant dans l'Himalaya, Tanouk le Maudit. Mon travail, moi, c'est de faire connaître les autres manières de penser la vie et la mort, comment les enfants vivent de l'autre côté du monde, comment les sociétés humaines résolvent ou expliquent, approchent le mystère de la vie sur Terre. Donc c'est ça, la base des cultures, c'est ça, le respect, la considération des ethnies. Mon travail en Afrique, c'est de montrer comment l'esclavage a été l'épreuve maximum de l'histoire de l'humanité, mais comment les humains ont réussi à trouver des moyens clandestins de construire des ripostes à cette épreuve-là, par la poésie, la mélodie, des rituels clandestins qui vont devenir la preuve, la trace de ces peuples-là.
D'accord.
Donner de la considération à ceux que l'histoire a maltraités. Ça, c'est mon travail. Alors, je travaille avec les éditions Actes Sud depuis 25 ans, donc c'est avec eux qu'on construit les projets. Un livre chez Actes Sud, c'est 4 ans de travail, donc je ne pars pas sur le terrain sans avoir l'accord de l'éditeur.
D'accord.
Et un peu son aide aussi. Et en jeunesse aussi, je travaille avec des éditeurs, on se connaît depuis longtemps. C'est le privilège de l'âge, donc j'ai toujours vécu de ce métier d'écrivain. Mais il faut que je puisse travailler avec des éditeurs complices, oui, ça, c'est sûr. Donc, on parle des projets, on échange et je pars sur le terrain et j'essaye de ramener l'expérience la plus humaine et la plus... Alors mes livres sont exigeants parce que le Haïti, comme le prince des Fatras, que les élèves ont beaucoup étudié là, à Châtillon-Saint-Jean, à Triors et à Romans, moi c'est expliquer la complexité du monde, c'est expliquer le drame d'Haïti aujourd'hui, pays pionnier de la liberté et qui s'est fait floué et bafoué par tous les pays occidentaux qui ne voulaient pas composer avec un pays qui a arraché la liberté en 1804 quand toute l'économie était esclavagiste. Donc Haïti paye jusqu'à aujourd'hui ce fait d'avoir été le premier à mettre égalité, fraternité, liberté au fronton de sa première république noire du monde. Alors aussi dire ici tout le bien que je crois tous les auteurs pensent de ce festival du livre. Le festival de Châtillon-Saint-Jean, Triors, c'est une référence, même en France, on peut le dire, parce que c'est une équipe pédagogique, parce que ce sont des parents d'élèves, parce qu'il y a un vrai projet éducatif derrière, parce qu'il n'y a pas trop d'auteurs invités, parce que tous les auteurs invités rencontrent des élèves. Il y a un travail en amont énorme qui est fait pour que les élèves soient tous concernés. Toute la décoration est faite pour les élèves. Ça me fait, moi qui travaille au Brésil, ça me fait penser au carnaval. Un carnaval est terminé, on prépare déjà le suivant et tout le quartier est impliqué. Là, c'est les enfants qui sont impliqués. L'album qu'ils vont étudier, ils l'illustrent, ils font des fresques à partir des idées de l'album ou du livre contenu. Ce qui est révélateur, c'est qu'il y a maintenant des festivals qui veulent se monter et ils viennent à Châtillon-Saint-Jean pour voir comment on fait un festival réussi. Et ça, c'est très très important. C'est la preuve que ici, moi j'ai eu la chance d'y participer 4 fois, Et c'est vraiment c'est un festival. Quand on est sollicité, on ne dit pas non. On ne dit jamais non à Châtillon-Saint-Jean.
Et puis c'est les parents d'élèves, c'est ce qui reste un peu singulier aussi, peut-être par rapport à d'autres organisations.
Ben oui, en Haïti, on dit le secret de la vie, c'est le grand travailler ensemble. Il y a un mot créole qui s'appelle combit, le grand travailler ensemble. C'est-à-dire ce qu'un homme ne peut pas faire une journée tout seul, eh bien, hop, des complices, des voisins solidaires vont le faire en quelques heures et le lendemain, on ira chez l'autre. C'est ça. Le symbole du Festival de l'île de Châtillon, c'est qu'il y a une chaîne de solidarité entre des instits, des parents, des bibliothécaires, des documentalistes. Et ça fait la réussite du salon. Il y a une raison quand même.
Alors vous présentez un certain nombre d'ouvrages, vous avez dû faire des choix parmi ceux qui sont exposés sur la table.
Non. D'abord, ce sont l'équipe pédagogique qui choisissent, par exemple, les livres qui vont être étudiés cette année-là. D'accord. Par les élèves. Okay. Soit en primaire, alors adaptés au primaire, soit au collège, puisque j'ai rencontré les deux collèges, j'ai rencontré tous les sixièmes de Malraux, j'ai rencontré quatre classes de cinquième de La Passa. Donc là, les livres sont un peu différents aussi. Oui. Puis après, évidemment, il y a aussi les deux librairies de romans, la Manufacture et les Cordeliers, qui jouent aussi un rôle de partenaire, qui sont très complices. Et c'est eux qui choisissent c'est eux qui, par exemple, ont choisi de faire venir mes livres adultes aussi, alors que je suis un auteur jeunesse. Donc ils disaient, bon, c'est bien que les adultes puissent voir aussi le rapport. Quand il y a une osmose entre la littérature adulte et jeunesse, c'est important de montrer la gamme de travail de l'écrivain. Alors non, ça c'est le choix des libraires, ça.
Oui, d'accord.
C'est le choix des libraires. Chacun son travail. Voilà. À chacun son travail.
Il y a un illustrateur avec qui vous travaillez ou vous collaborez régulièrement, ou c'est la maison d'édition qui vous fait des propositions?
Il y a des maisons d'édition qui nous laissent le choix. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé sur un roman jeunesse avec François Place, qui était là l'année dernière et qui est un des plus grands illustrateurs en France. Dans mon dos, il y a les originaux de Jean Clavery, autre grande figure de l'illustration en France, qui a illustré Prince des Fatras. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Françoise Malaval, avec Nemo, avec Marcelino Truong. Je crois que j'ai quand même plutôt de la chance. Il y avait Frédéric Manceau pour la Sansa de Bama, mais il n'y en a plus, ils sont tous partis. Avant même samedi, il n'y avait plus de Sansa de Bama, tout parti. C'est un grand illustrateur, Frédéric Manceau. Non, je suis bien gâté.
Il y a toute une diversité aussi au niveau de l'aspect de vos ouvrages, entre les poches, les plus grands formats.
Chez Actes Sud, tous mes livres sortent en format littérature, grand format.
Oui.
Et puis, j'ai eu la chance qu'il y en ait deux, Cabernet Atlantique et Lisbonne dans la ville noire, qui ont eu du succès, qui sont devenus un peu des livres références pour le Cap-Vert et Lisbonne, derrière la façade de l'histoire. Et donc, ils sont en Babel, Actes Sud, ils sont en poche. Après avoir vécu en tant que... en première édition, livre courant normal. Ouais. Ça, c'est le destin des livres.
Oui, 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 tout à fait. Donc, après, c'est la vie qui les...
Le Pépite Brésilienne est prévu pour passer en poche bientôt. Donc ça, c'est bien. Je suis content. Je l'attends avec impatience.
Et là, ce livre, Le Camion Frontière, qui a une bonne place, on peut dire que c'est un livre emblématique dans ce que vous avez sorti récemment.
C'est un livre que je défends parce que Le Camion Frontière, c'est un livre qui essaye de contrecarrer cette tendance humaine à construire des murs entre les uns et les autres. C'est insupportable, nous sommes dans une époque qui a perdu la conscience de la solidarité et de la générosité. Nous sommes sur Terre, il y a des conflits que nous n'arrivons pas à enrayer, il y a des guerres. La première chose à faire, c'est d'être solidaire. Et non, il y a certains pays du centre de l'Europe qui construisent des fils de fer barbelés au lieu de faire des dispensaires, au lieu de faire des centres. Ça coûterait bien moins cher, mais non, on dépense de l'énergie, des matériaux pour construire des murs. Alors j'ai écrit cet album, Le Camion Frontière, illustré par Françoise Favaro, pour un livre métaphorique où j'ai imaginé deux peuples, les uns et les autres, ne pouvant plus exister ensemble. Eh bien, ils construisent un mur. Ils sont tellement pressés qu'ils n'ont pas le temps d'enlever un vieux camion-citerne qui était là. Le mur de béton passe par-dessus le camion-citerne. Avantage de l'affaire, c'est qu'un camion-citerne a deux portes. L'une donne sur le territoire des uns, l'autre sur le territoire des autres. Et bien sûr, on a dit aux enfants de ne surtout pas jouer près du camion frontière, ce qui est le meilleur moyen pour les amener tout de suite vers le camion. Et ils ouvrent la porte au même moment. Alors le livre se passe entre Primo des uns, Tima des autres, qui découvrent en se regardant dans la cabine, contrairement à ce que les oncles, les neveux, les gens de l'entourage avaient dit, ben les uns et les autres sont pareils, ils ne sont pas vilains ou sympas, ils sont pareils. Nous sommes de la même espèce, de la même race. Il n'y a pas de S au mot race, il n'y a qu'une seule race sur Terre. Et ils le découvrent. Alors donc, ils disent, on n'a qu'une chose à faire, on va jouer. Et ils jouent à un jeu qui est à reconstruire le monde et à essayer de trouver le moyen de déplacer le camion, de lui donner sa liberté et qu'à la place, eh bien, il y ait un passage béant pour que les humains puissent passer. Je m'énerve tellement de penser que Coca-Cola peut voyager librement dans le monde entier et qu'il y a tellement d'humains qui n'ont pas le droit de voyager librement dans le monde entier. C'est abominable de penser qu'une bouteille vulgaire de soda peut voyager dans le monde entier, pas les humains. Donc, j'ai écrit ce livre-là avec l'espoir qu'un livre puisse faire tomber les murs et percer les frontières. Une frontière n'a d'intérêt que si elle est ouverte. Voilà.
Voilà, c'est le contrepoids de ce qui s'opère de manière plutôt cynique, ce que vous précisiez tout à l'heure. Il y a toujours un petit contrepoids clandestin.
J'espère que les intellectuels, les artistes sont là pour jouer un rôle essentiel de réflexion et de prise de conscience. J'espère que la mauvaise passe dans laquelle on est, je veux dire qu'un jour le dictateur de Hongrie ne sera plus au pouvoir, et j'espère que le paillasse, le guignol de l'autre côté de l'Atlantique ne sera plus au pouvoir et que la conscience reprendra les droits. Mais c'est à nous, intellectuels ou artistes, de jouer notre rôle et d'activer, de rendre le plus vite ce moment où les murs tomberont, les frontières s'ouvriront et le dialogue reprendront entre les humains. On parle du commerce extérieur, parlons des échanges culturels entre les humains. La culture est le seul avenir de l'homme. Il n'y a que trois solutions au monde. Éducation, deuxièmement éducation, troisièmement éducation. C'est comme ça qu'on arrivera à faire tomber les murs.
Jean-Yves Loude, merci beaucoup.
Merci.